Voici le journal de Marc Potvin. Bonjour Marc.
Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous.
Avec à la une ce matin, la campagne vaccinale qui se poursuit désormais en pharmacie. Nous serons dans un instant dans l'une d'entre elles. Les autres titres, Marc.
Un vent de liberté souffle dans les EHPAD. Protocole sanitaire assoupli dans ces établissements depuis hier. Pas encore de changement dans celui où nous serons dans quelques minutes, mais déjà un immense soulagement. Y a-t-il un loup derrière la mort d'une quinzaine de brebis en fin de semaine à Dijon ? Des éleveurs en sont convaincus. Ils ont mené une action choc hier à Dijon pour se faire entendre. Un essai anglais dans les trois dernières minutes de jeu et voilà que tout s'effondre. Les rugbymen français ont perdu de justesse hier face aux 15 de la Rose. Défaite 23-20 à l'issue de ce match du tournoi des Six Nations.
Et puis à 8h20, question ce matin à l'historien Pascal Blanchard, spécialiste liste de l'histoire coloniale et des immigrations. Avec lui, on va s'intéresser aux futurs noms des rues et autres places et statues de France.
France Inter.
La vaccination a donc commencé hier dans certaines pharmacies, les 6700 officines dans les départements sous surveillance qui ont reçu un flacon du sérum AstraZeneca. Parmi elles, cette pharmacie du 13e arrondissement de Paris où s'est rendue Hélène Chevalier.
C'est ma meilleure journée depuis un an.
Christine Beer est soulagée. La pharmacienne a enfin reçu le précieux flacon d'AstraZeneca.
Oui. Moi, je suis très joyeuse. Franchement, ça donne de l'espoir, non ?
Les 10 injections de la journée ont lieu dans une pièce derrière le comptoir, à l'abri des regards, celle déjà utilisée lors des vaccinations contre la grippe.
C'est un tout petit peu plus long parce qu'on doit les laisser attendre un quart d'heure après la vaccination, ce qui n'était pas le cas pour la grippe où on les laisse partir direct. Sinon, ça ressemble.
Du coup, là j'ai noté l'heure d'ouverture du flacon. Je sais que j'ai 6 heures à partir de cette heure-là pour injecter mes 10 doses.
La pharmacienne s'apprête à piquer Martine, 74 ans, l'énergique retraité a enchaîné les déconvenues, notamment avec son médecin.
La veille du rendez-vous, annulation sur Doctolib. J'avais déjà eu annulation Pfizer. Donc je suis venue un peu désespérée.
Alors quand Martine, des envies de voyage plein la tête, a reçu l'appel de la pharmacienne la veille.
J'ai enfin une vaccination. Je me fiche du nom du vaccin et du labo, c'est pas le problème pour moi. Moi je veux prendre un avion cet été, c'est tout. Je ne veux que ça, prendre un avion pas loin pour l'Angleterre.
Pour cette autre cliente, c'est en revanche la déception.
C'est un cas de contre-indication, du coup je ne vais pas le faire. Bah non, c'est moi qui suis désolée pour
dans
vous.
Le doute, la pharmacienne la renvoie vers son médecin traitant et s'empresse de téléphoner à une des 100 personnes sur sa liste d'attente.
Hélène Chevalier, si les pharmaciens ont le droit de vacciner contre le Covid-19, alors pourquoi pas les infirmiers ? L'Ordre national des infirmiers demande à nouveau au gouvernement de leur donner la possibilité de faire ces injections. Cela permettrait notamment d'atteindre les personnes fragiles et isolées, argument dans une tribune dans le journal du dimanche. Qu'ils soient vaccinés ou pas, les résidents d'EHPAD ont désormais plus de liberté sur le papier. Le protocole sanitaire dans ces établissements est en effet assoupli depuis hier. Mais ce sont les directeurs et directrices qui ont le dernier mot. L'annonce, et rien que l'annonce de cet assouplissement, fait déjà du bien, comme l'a constaté Sandrine Etoa-Andeg dans cet EHPAD de Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne.
Alors je suis Florence, je suis la responsable de la vie sociale dans l'établissement.
Comment vous avez accueilli cet assouplissement du protocole sanitaire dans la résidence ?
Avec joie, parce que ça va enfin libérer les résidents, libérer aussi les familles, parce que ça commence à peser, sur le moral de tous.
Ça change tout ? Vous venez rendre visite à quelqu'un ici ?
Oui,
ma mère. Dans les prochains jours, les visites pourront se faire dans les chambres plutôt que dans des grandes salles collectives. Qu'est-ce que ça peut changer pour vous ? Voilà, je demande
pas tout.
Ça change tout parce qu'en bas, c'était compliqué. On n'avait pas d'intimité. Et puis même au niveau sanitaire, c'est mieux.
Bonjour. Ils font un atelier d'art floral pour mettre dans des vases. Il y a beaucoup d'animation, il y a de la vie. Hein. Ils échangent, ils discutent, ce qu'il n'y avait plus.
Vous avez entendu que le protocole sanitaire allait s'alléger ?
Bien sûr. Si vous voulez, on attendait d'être dans nos logements avec nos familles pour plus d'intimité. On a aussi tous les étages qui se remélangent parce qu'on était séparés. Et la séparation, c'était dur.
C'est vrai que d'être enfermé comme ça dans les chambres, non, c'est pas vivable.
Que ça s'allège, ça fait beaucoup de bien.
Un reportage de Sandrine et toi, Andegue. Une marche blanche pour Alisha en début d'après-midi à Argenteuil, près de Paris. Alisha, adolescente de 14 ans, morte dans cette ville en début de semaine après un différend avec deux de ses camarades de classe. Cette marche partira du lycée où elle était scolarisée pour rejoindre les bords de Seine. La jeune fille a été retrouvée noyée dans le fleuve.
Des passants choqués hier après-midi à Dijon.
Oui, choqués face à l'action d'une cinquantaine d'éleveurs devant la préfecture de Côte d'Or. Ils ont déposé des cadavres de brebis égorgées. Action après la mort d'une quinzaine de bêtes en fin de semaine dans un élevage du département. Depuis décembre, il y a eu une centaine d'attaques du même genre en Côte d'Or, expliquent ces éleveurs. Parmi eux, Hubert Mauny, président du syndicat d'élevage Auvin dans le département. Pour lui, c'est de pire en pire.
Là, depuis décembre, c'est toutes les semaines, parce qu'on ne sait plus comment se faire entendre. Est-ce qu'il faut brûler les voitures? S'il faut aller chercher de l'essence et un briquet, on va y aller. L'idée, c'est de se faire entendre. Tout simplement, le loup est revenu remettre en question nos pratiques. Et aujourd'hui, voilà, on ne peut plus exercer notre métier. La bonne solution, c'est de prélever le loup. Ça veut dire clairement le tuer. Prélever, c'est tuer l'animal. Dans notre secteur, c'est impossible de gérer les moutons ou l'élevage et le loup.
Hubert Mauny, président du syndicat d'élevage Auvin de Côte d'Or, avec Adrien Beria de France Bleu Bourgogne. Une délégation d'éleveurs a été reçue en préfecture pour demander de nouvelles mesures de protection et de défense contre le loup.
On va parler des sports avec le rugby pour commencer. La déception qui domine ce matin au sein du 15 de France.
Oui, comme à chaque fois depuis 2005, les Bleus n'ont pas réussi à battre les Anglais sur le terrain. Sur leur terrain, défaite des tricolores 23 à 20 hier à cause d'un essai des Britannique dans les trois dernières minutes de jeu, d'où la frustration du demi d'ouverture, Mathieu Jalibert.
Des petits détails qui pardonnent pas malheureusement à ce niveau, et c'est frustrant parce que on avait la sensation de pouvoir faire quelque chose de grand ici à Twickenham. On a su répondre présent physiquement, on était confiants sur le plan physique, sur le plan de notre jeu, on était prêts à venir faire un grand match ici à Twickenham. Et je pense que ce que ça s'est vu, voilà, on a répondu sur le plan physique, sur le plan rugbystique. Malheureusement, on échoue à cause de quelques détails, mais voilà, on apprend. Donc voilà, c'est plaisant de pouvoir se dire qu'on peut se rattraper dès la semaine prochaine.
Le demi d'ouverture tricolore, Mathieu Jalibert. Et la semaine prochaine, samedi, le 15 de France recevra le Pays de Galles. Première rencontre du tournoi destination à domicile pour les Bleus. Sur le Paris-Nice, Primoz Roglic, insatiable, le Slovène a franchi le premier la ligne d'arrivée hier dans la station de la Colmiane. Troisième victoire en 4 jours. La compétition s'achève aujourd'hui avec une boucle de plus de 90 km autour de Lévins, c'est dans l'arrière-pays niçois. La disparition d'un grand nom de l'édition française, Jean-Claude Fasquelle, meurt à l'âge de 90 ans. Jean-Claude Fasquelle à la tête de Grasset de 81 à 2000. Sous sa direction, de grands noms de la littérature ont rejoint la maison d'édition Umberto Eco ou encore le prix Nobel Gabriel Garcia Marquez. La réouverture des salles paraît loin, mais eux préparent déjà des spectacles. Eux, ce sont les plus de 200 artistes de 40 pays soutenus par l'atelier des artistes en exil à Paris. Stéphane Capron s'est rendu sur place.
Tu veux qu'il fasse irruption comme
exactement.
Ça.
Exactement.
Okay. On essaye ça.
Sur le plateau de la Maison des Métallos, Judith Depaul répète son prochain spectacle Disparu, qui réunit de jeunes acteurs de l'Irak et des artistes en exil comme Anna Maria. Elle a fui le Venezuela car son rôle d'activiste pour la défense de l'environnement et le droit des femmes devenait intenable. Mais une fois arrivée en France, elle a eu du mal à faire reconnaître son métier d'artiste.
La première fois, en tant que réfugiée, Pôle emploi me offre la porte pour voir quel est mon parcours. La dame ne comprend pas que je suis artiste, donc elle me propose plein de choses et j'ai dû insister. Je suis un artiste.
L'atelier permet à ces artistes de se reconstruire et Judith Depaul, qui l'a cofondée avec Ariel Sipel, a pu mesurer depuis un an son utilité.
Le premier confinement a mis en exergue des situations chez les artistes en exil qu'ils avaient déjà vécues. Une ville assiégée, la prison, un confinement dû à des choix religieux, sexuels, ou alors à tout simplement leur appartenance ethnique. C'est un schéma qu'ils connaissent déjà, être dans une forme de confinement.
L'atelier des artistes en exil attend désormais la réouverture des salles pour pouvoir organiser la 5e édition de son festival Vision d'exil.
Et c'était un reportage de Stéphane Capron.
Et Marc Potdevin pour l'ensemble du journal. À tout à l'heure. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Avec un temps largement ensoleillé autour de la Méditerranée, Jean-Michel Golinski.
C'est effectivement dans cette zone que le ciel sera le plus dégagé, mais au prix d'un vent quand même très turbulent pour le Mistral, la Tramontane et les fortes rafales d'ouest sur la Corse. Du Val-de-Loire en allant vers la Bretagne et la Basse-Normandie, les éclaircies durables vont s'entrecouper de quelques ondées. Sur le reste du pays, l'ambiance sera quand même plus menaçante avec des averses sous forme de giboulées de l'Alsace-Lorraine à Rhône-Alpes avec des flocons jusqu'en plaine. Et souvent de la neige à partir de 600 mètres d'altitude sur les massifs. Donc attention, risque d'avalanche de plus en plus présent sur les Alpes. Cet après-midi, il est prévu 7 à 11 degrés de l'Alsace au Lyonnais, 10 à 12 dans le sud-ouest et au nord de la Loire, 15 dans le golfe du Lion et 17 degrés sur la Corse et la côte d'Azur.
Jean-Michel Golinski de Météo France.